Quand je parcours une liste de personnages illustres, je suis toujours surpris de ne pas y figurer. Ce que je veux vraiment dire est que la sélection que j'ai sous les yeux ne correspond pas forcément aux gens que j'aurais choisis, et je suis parfois étonné par ceux qui brillent par leur absence. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait visiter sa galerie des héros de la foi de l'Ancien Testament, et la présence de certains surprend. Je continue à lire dans le chapitre 11. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Versets 32 à 34. Dans sa démonstration de la suprême importance de la foi dans la marche avec Dieu, l'auteur en vient à s'exclamer « Qu'est-ce que je peux dire de plus ?» L'Ancien Testament raconte l'histoire de beaucoup de personnes qui se sont distingués par leur foi en l'Éternel. En conséquence, il n'est pas possible de les couvrir tous en détail. Les six hommes que l'auteur passe en revue ne sont pas énumérés dans un ordre chronologique, mais avec les prophètes, ils ont tous été des personnes qui jouissaient d'une autorité qu'ils avaient reçue de Dieu. D'une manière ou d'une autre, c'étaient des chefs. Plusieurs sont des armoires à glace, des personnages clés de l'Ancien Testament, qui ont littéralement fait l'histoire. D'autres sont moins connus, voire très obscurs. Samuel et David sont célèbres. Le premier était à la fois juge et prophète, et le second roi et prophète. Cependant, aucun d'entre eux est à l'honneur à cause de son rang ou de sa fonction, mais en raison de ce qu'il a pu accomplir par la foi. Gédéon devint juge et chef militaire malgré lui. Quand l'ange de l'Éternel lui est apparu afin qu'il délivre les Israélites du joug que faisaient peser sur eux leurs ennemis, Gédéon a tout fait pour s'esquiver parce qu'il avait peur. Finalement, il a demandé un signe miraculeux après un autre avant d'accepter bon an, mal an de constituer une armée de 32 000 hommes pour combattre les hordes ennemies. Cependant, pour ne pas que les Israélites croient que la victoire serait due à leur courage ou à leur génie militaire, l'Éternel a réduit les forces de Gédéon d'abord à 10 000, puis seulement à 300 hommes, qui ont été choisis uniquement sur leur façon de boire. En effet, sont partis au combat ceux qui portaient l'eau à leur bouche avec la main et qui la lapaient comme le ferait un chien. Dans le camp adverse, par contre, le texte dit que les troupes ennemies étaient en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. Qu'à cela ne tienne, si Dieu est pour nous, écrit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Le plus curieux dans cette histoire est que les hommes de Gédéon avaient pour seules armes des trompettes et des cruches contenant des torches allumées. Ce ne fut pas une bataille ordinaire. Les Israélites se sont séparés en trois formations, puis ont convergé sur leurs ennemis, et alors, dit le texte, les trois groupes sonnèrent du cor et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent leurs torches, et de la droite, ils tenaient les cors pour en sonner, et ils crièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» On aurait pu s'attendre à ce que leurs ennemis meurent de rire, mais loin s'en faut, car l'Éternel est intervenu et les envahisseurs se sont entretués. Ce fut une grande victoire qui, comme c'est souvent le cas dans le livre des Juges, est suivi d'une histoire sordide. En tout cas, et bien qu'avec ses hommes, il ait seulement joué un rôle de figurant, Gédéon prend place dans la galerie des héros de l'Ancien Testament parce qu'après avoir surmonté sa peur et donc son incrédulité, il a conquis une coalition de pillards par la foi. Barak est un personnage obscur qui n'est mentionné que très brièvement dans le livre des Juges. Les Israélites étaient tombés une fois encore dans l'idolâtrie et pour les punir, le texte dit que l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen. Le chef de son armée s'appelait Sisera. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse, administrait la justice en Israël. Puis un jour, sur l'ordre de Dieu, elle a envoyé un messager à Barak et lui a fait dire que sur l'ordre de l'Éternel, il devait rassembler une troupe de 10 000 hommes afin de combattre le roi cananéen. Barak n'était pas le chevalier Bayard sans peur et sans reproche, car il a répondu à Déborah « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Barak ne respirait ni le courage, ni une foi à soulever des montagnes. Mais avant de lui jeter la pierre, il faut prendre en compte que d'une part, il a quand même accepté de se battre, et d'autre part, son désir d'être accompagné de Déborah montre qu'elle comptait davantage pour lui que son armée parce qu'elle représentait la présence de l'Éternel. Pour Barak, si la prophétesse était à ses côtés, cela signifiait que Dieu était avec lui. Ils sont donc partis au combat ensemble et sur l'ordre de Déborah, Barak, à la tête de ses 10 000 hommes, a lancé un assaut contre une immense armée appuyée de 900 chars de fer. Humainement parlant, Barak allait devant une mort certaine, mais il ne se souciait pas du tout des forces ennemies parce qu'il était certain que Dieu interviendrait et c'est exactement ce qui est arrivé. Le texte dit « Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. » Suite à cette bataille, Déborah et Barak ont composé, chanté un cantique de victoire, puis Barak est retombé dans l'obscurité. Le juge Samuel le mentionne en passant, mais c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le ressuscite pour le placer dans la galerie des héros de la foi, parce que, après avoir dominé sa peur, il a vaincu les troupes du puissant Sisera par la foi. Nous arrivons à Jephté, qui est un personnage très coloré. L'Écriture dit que c'était un vaillant guerrier, mais qu'il a commencé avec un sérieux handicap, puisque sa mère était une prostituée. Il était originaire du Galaad, une région montagneuse à l'est du Jourdain qui correspond au nord-est de la Jordanie, et qui appartenait à la tribu de Manassé. Quand les fils légitimes de son père sont devenus adultes, ils ont fait valoir le statut bâtard de Jephté et l'ont fait expulser du pays. Il s'est donc réfugié dans les montagnes où il est devenu chef d'une bande d'aventuriers qui vivaient de rapines. À cette époque, les habitants de Galaad furent attaqués par leurs voisins, les Ammonites. Alors, les responsables politiques qui avaient besoin d'un vaillant guerrier sont allés chercher Jephté, qu'ils avaient pourtant chassé comme un malpropre. Il leur a fait remarquer qu'ils avaient un drôle de culot, mais il a accepté quand même parce que non seulement ils lui ont proposé de prendre la tête de la défense du pays, mais ils lui ont aussi promis un rôle civil respectable, une fois la victoire assurée. C'est à ce moment qu'on découvre que malgré son style de vie, Jephté possédait une certaine foi en Dieu, parce que le texte dit qu'il répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Ensuite, Jephté prend la situation en main et commence par essayer de raisonner avec les Ammonites afin de résoudre le conflit à l'amiable. Comme ça ne mène nulle part, ce sont les armes qui vont parler. D'après le texte, Jephté fut saisi par l'Esprit de Dieu et a recruté des soldats. Mais avant de passer à l'attaque, il prend peur et fait un vœu stupide à l'Éternel parce qu'il était aussi un peu superstitieux sur les bords et il essayait de mettre toutes les chances de son côté. Sa foi est hésitante mais suffisante malgré tout pour qu'il attaque un ennemi supérieur en nombre et en force qui l'a vaincu. L'Éternel lui accorda une victoire éclatante et la petite foi de Jephté lui a valu une place dans l'Épître aux Hébreux. Moi, je suis réconforté par les histoires de Gédéon, de Barak et de Jephté, car comme je l'ai fait remarquer, ils étaient loin d'être des surhommes et pourtant ils figurent dans le panthéon des hommes de foi. Nous arrivons à Samson, qui est surtout connu pour sa force herculéenne et son attirance pour le sexe faible. C'était un grand enfant qui se laissait aller à ses instincts, ce qui a fini par compromettre les capacités surhumaines que Dieu lui avait données. Pourtant, il avait foi en l'Éternel, car il savait très bien que c'est de lui que venait sa puissance, dont les cheveux n'étaient qu'un symbole. En fait, tout jeune, Dieu l'avait déjà choisi et béni afin qu'il délivre Israël qui était opprimé par les Philistins. Devenu adulte, l'Esprit de Dieu s'emparait de lui et il devenait littéralement indestructible. Quand il n'était pas occupé par les femmes ou à combattre les Philistins, il exerçait la fonction de juge en Israël, ce qu'il a fait pendant 20 ans. Samson n'a jamais affronté ses ennemis avec le courage héroïque de certains hommes qu'on trouve dans les livres d'histoire. Il s'attendait à ce que l'Éternel le rende invincible et Dieu a honoré sa foi indépendamment de ses fautes qui lui ont quand même coûté la vie. Nous arrivons à David qui est différent des hommes précédemment cités parce qu'il est le fondateur d'une dynastie qui est restée au pouvoir pendant plusieurs siècles. C'est un personnage clé tout comme Abraham. D'ailleurs, l'étoile de David est aujourd'hui l'emblème de l'État d'Israël. Dès son enfance ou du moins son adolescence, ce jeune homme avait déjà une foi personnelle en l'Éternel. Lorsqu'il gardait les moutons et qu'ils étaient attaqués par un lion ou un ours, il tuait le prédateur avec sa fronde, tout en plaçant sa confiance en Dieu. À l'époque de Saül, premier roi d'Israël, il régnait un état quasi perpétuel de guerre entre Israël et les Philistins. Or, ces derniers avaient lancé un défi aux Israélites, disant que l'issue du combat serait décidée par le vainqueur entre les champions des deux camps. Les Philistins ont présenté Goliath, qui était un géant de 3 mètres. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. » « Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier !» Tous les soldats israélites, y compris le roi et les frères de David, avaient une peur bleue de ce géant et nul n'osait se mesurer à lui. C'est alors que David, jeune adolescent qui apportait des victuailles à ses frères, a entendu l'harangue de Goliath. Quand il a vu cette brute épaisse et a entendu ses insultes, son sang n'a fait qu'un tour et n'écoutant que son courage, il s'est porté volontaire pour relever le défi de Goliath qu'il a affronté avec une fronde et quelques pierres. Il avait la pleine assurance que Dieu lui donnerait la victoire sur ce géant comme sur les bêtes féroces qui attaquaient son troupeau. Sur le terrain situé entre les deux armées, les deux champions se sont avancés l'un vers l'autre. Alors David a calmement déclaré à Goliath « Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Contrairement à Gédéon, Barak ou Jephté, David ne connaissait pas la peur et n'a pas douté un instant de l'issue du combat. Bien que sa confiance en l'Éternel ait été exemplaire, David était loin d'être parfait. D'ailleurs, il en a fait des vertes et des pas mûres, mais comme les autres héros de l'Ancien Testament, Dieu a honoré sa foi et a même dit de lui « J'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. » Nous arrivons à Samuel qui est inclus dans la liste des combattants, bien qu'il n'en était pas un. Cependant, il a dû affronter l'idolâtrie et l'immoralité qui étaient rampantes en Israël. Il a pris position contre une société corrompue et a réprimandé sans ménagement les Israélites afin qu'ils reviennent à l'Éternel, leur Dieu. Ses plus grands adversaires n'étaient pas les nations environnantes et les ennemis héréditaires d'Israël, mais les membres de son propre peuple. Il a dû faire face à une forte pression sociale afin de rester fidèle à l'Éternel. Samuel était prophète et le dernier juge d'Israël. Sa mère l'a placé au service des prêtres dès sa plus tendre enfance. Devenu adulte, il jouissait d'une grande autorité à cause de sa foi inébranlable en l'Éternel, ce qui lui a permis de diriger Israël avec courage et sagesse. Il s'est même opposé à Saül, qu'il avait consacré roi, puis l'a déposé au nom de l'Éternel avant d'aller oindre David comme nouveau roi. Samuel ne cherchait ni la gloire ni les richesses, c'était un pur. Aujourd'hui, il n'existe malheureusement aucun politicien qui ait son envergure. Dans la galerie des héros de la foi, l'auteur mentionne les prophètes sans les nommer. Comme il le dit lui-même, il n'a pas le temps de rentrer dans les détails. À l'exemple des personnages déjà cités, les prophètes ont tout risqué pour servir l'Éternel et certains y ont laissé leur vie. Ils n'ont pas combattu sur des champs de bataille, mais dans les cœurs de leurs concitoyens. Ils n'avaient pas froid aux yeux et c'est avec courage et confiance qu'ils ont accepté la charge qui leur était confiée, qu'ils ont confronté le péché d'Israël ou de Juda, surtout l'idolâtrie, et qu'ils ont dénoncé les responsables politiques et religieux qui, par leur conduite, se rendaient coupables devant Dieu. L'un des premiers prophètes en Israël a lancé un défi au peuple rassemblé devant lui et a dit « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » C'est par la foi et en plaçant toute leur espérance en l'Éternel qu'ils ont combattu pour lui et qu'ils ont exercé leur ministère envers et contre tous les adversaires. Puis l'auteur mentionne ceux qui ont fermé la gueule des lions et éteint les feux violents. Ces deux événements font certainement allusion d'abord à Daniel, puis à ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand l'auteur cite en vrac Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, puis dresse une liste d'actes glorieux réalisés par la foi, il fait penser à quelqu'un qui viderait un sac de pommes de terre. Cette accumulation de noms et d'accomplissements sert à montrer qu'indépendamment des difficultés rencontrées par les hommes de foi, leur confiance en Dieu les a délivrés de leurs ennemis et leur a donné le pouvoir et la force nécessaires pour accomplir leurs tâches respectives. Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. Des femmes ont vu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. Verset 35. C'est le prophète Élie qui a ramené à la vie l'enfant d'une veuve qui habitait en Israël à Sarepta, et son successeur Élisée a fait de même pour le fils d'une femme appelée la Sunamite, parce qu'elle habitait le village de Sunem. Ces personnes croyaient que l'Éternel avait le pouvoir de ressusciter les morts, et il l'a fait, et les bénéficiaires d'une telle grâce se sont écriés « Alléluia ! » Et je dois dire que c'est effectivement merveilleux de pouvoir s'exclamer comme dans un psaume « Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon, oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. » Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Fin de citation. Cependant, Dieu n'agit pas toujours ainsi. En fait, les miracles sont plutôt rares. C'est pourquoi l'auteur, qui est réaliste, va mentionner toute une série d'afflictions qui ont souvent duré longtemps et parfois toute une vie. Je continue le texte. D'autres, en revanche, furent livrés au tourment. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 35. Le mot pour tourment a donné timbale en français parce que c'est une référence à une torture particulière qui consiste à lier la victime sur une sorte de barrique et à le battre à mort. Les personnes qui ont refusé d'être délivrées afin d'obtenir une meilleure résurrection sont celles qui doivent faire face à toutes sortes de persécutions à cause de leur fidélité au Seigneur. Le pinacle de la foi, c'est être prêt à subir le pire, à souffrir et même mourir, afin de recevoir une résurrection glorieuse, ce que Dieu a de meilleur à offrir. Jésus avait averti ses disciples que leur vie ne serait pas une sinécure quand il leur a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont lourdes de menaces, mais il y a pire. Jésus a aussi dit « Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. »